Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « Les enfants de lumière gouverneront avec Jésus-Christ ». Nous arrivons à l'étude numéro 5. Comme vous le savez, il existe les enfants des ténèbres. Oui, il existe deux dirigeants sur terre. L'un est Elohim, c'est le Seigneur de lumière. L'autre, l'imposteur, le prince des ténèbres, Lucifer, nommé tout spécialement fils de l'aurore. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Il avait été dans l'Éden originel, le paradis céleste. Il était le chérubin oint qui couvrait au ciel le trône de justice. Il marchait parmi les pierres de feu jusqu'au jour où il voulut être plus grand que Dieu et qu'il fut jeté à terre. Il entra dans le jardin d'Éden, paradis terrestre, et trompa notre mère Ève, et il a fait tomber Adam, et il a provoqué une séparation entre Dieu et ses enfants. Ainsi, il y a les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Depuis ce jour-là, il y a donc deux sortes de personnes sur cette terre, non pas noir et blanc, juif et gentil, prisonnier et homme libre, mais enfant de lumière et enfant de ténèbres. Ni la couleur de la peau, ni la religion, ni les principes ne déterminent le groupe auquel nous appartenons. Mais qui nous suivons? À qui nous obéissons? À quelle influence nous nous soumettons? C'est cela, oui, c'est cela qui déterminera si nous sommes enfants de lumière ou enfants de ténèbres. Il existe même des chrétiens qui sont enfants de ténèbres, difficile à croire, mais j'ai constaté cela durant ma longue vie. J'en suis bien triste, mais c'est hélas vrai. Les Esséniens, habitants de Qumram, en Israël, au temps de Christ, dire que le grand conflit à travers les âges, c'est celui existant entre les fils de lumière et les fils de ténèbres, et que le conflit final serait entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Les enfants de lumière ne veulent pas se battre, mais s'ils se trouvent obligés d'aller au combat, ils sont prêts à donner leur vie pour la vérité et la justice. À l'heure actuelle, dans nos pays occidentaux, ce combat fait rage entre ceux qui sont pour la vie et ceux qui sont pour l'avortement. Il fait rage dans la religion, la politique, l'éducation et la moralité de notre société. Rester neutre, c'est être dans les ténèbres. Quand il est question de vie ou de mort, de bien ou de mal, de bon ou de mauvais, la neutralité ne peut exister. Jésus a dit que c'est parce que les hommes préfèrent les ténèbres qu'ils sont enfants de ténèbres. Il en voyait chaque jour, et ce n'était pas parmi les gens ordinaires du commun qu'il les voyait, mais il les voyait parmi les pharisiens et les sadducéens religieux. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Saint Jean, chapitre 3, verset 19. Aujourd'hui encore, les hommes semblent aimer les ténèbres. Ils s'assemblent dans des endroits sombres, des lieux de débauche, pour se distraire, car ils ne veulent pas qu'on puisse les reconnaître. Si une brillante lumière devait être subitement allumée dans un de ces endroits, la majorité des personnes présentes se disperseraient comme des punaises ou des blattes, et cela parce que leurs œuvres sont mauvaises. Lorsque notre appartement a été cambriolé deux fois, Dieu me montra qu'il faudrait mettre de la lumière à certains endroits, car celle-ci serait suffisante pour faire craindre aux voleurs d'être démasqués. Le meilleur moyen de combattre le mal n'est pas par le mal, mais par la lumière. Quand on vous attaque, revêtez vos armes de lumière. L'ennemi ne supporte pas la lumière. C'est en l'aimant que vous le combattrez. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. C'est notre seule protection contre la haine, la sorcellerie et les médites, on peut dire les malédictions, même religieuses. Dans Saint Matthieu, au chapitre 6, verset 23, Jésus dit « Si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? C'est donc par les yeux, perception et compréhension spirituelle que nous pouvons voir Dieu et le connaître. Mais lorsque notre œil est méchant, alors notre être tout entier se trouve sous le contrôle du malin. C'est la raison pour laquelle Jésus a fait des reproches aux chefs religieux de son époque. Il leur a dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. » Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Ils étaient, en effet, sous le contrôle de Satan, et Satan a beaucoup de puissance et d'influence dans le monde religieux, et aujourd'hui plus que jamais, même jusqu'au Vatican. Satan ne convoite pas simplement les perversions sexuelles et toutes sortes d'immoralités, mais surtout la richesse, l'emprise sur les hommes, la notoriété et l'éloge. Même certains chrétiens recherchent ces choses-là. Serait-ce possible que Satan convoite au travers d'hommes religieux qui sont très connus sans que ceux-ci s'en rendent compte? Jésus n'a jamais désiré la richesse, le contrôle d'autrui, la notoriété. Il dormait dans les collines de la Galilée. Il interdisait à ceux qu'il avait guéris d'en parler. Il dit qu'un autre que lui les jugerait. Et il fut enterré dans le tombeau d'un étranger. Et pourtant, il est devenu le plus grand homme que cette terre ait jamais connu. Jésus, il était la lumière parfaite de Dieu le Père pour le monde, car son amour était parfait. Si nous sommes remplis de lumière, nous sommes remplis d'amour, parce que l'amour se trouve dans la lumière. Il est impossible d'avoir la lumière de Dieu et de ne pas aimer comme Dieu aime. Quand nous vivons dans sa communion, nous sommes, vous et moi, dans sa présence. Nous sommes là où il y a la plénitude de joie et la perfection d'amour. Les enfants de ténèbres ont la haine dans le cœur. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit: mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres, et il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 11. Qui que vous soyez, si vous avez de la haine dans votre cœur pour un frère ou une sœur en Christ, il y a des ténèbres dans votre cœur. La proportion du royaume des ténèbres sera à la mesure de la haine qui se trouve en vous. Chers amis, comment aimer ceux qui marchent dans les ténèbres? Vous direz peut-être: mais cela veut dire que je dois m'associer à quelqu'un qui, quoique se disant un chrétien, est le contraire. Non, non, non. Vous pouvez, chers amis, aimer le lépreux sans être obligé de partager votre lit avec lui. Jésus évitait certaines personnes. Il évitait même ses propres frères. Du reste, il ne monta pas avec eux à Jérusalem pour la fête. Il dit: « Mon temps n'est pas encore venu. » Saint Jean, chapitre 7, verset 6. Et lorsque ils quittèrent Nazareth, il partit derrière eux. Si vous voulez suivre Jésus et faire comme lui, vous ne vous tromperez jamais. Son amour sera la lumière qui éclairera votre chemin et vous montrant par où vous devez passer. S'il vous est difficile d'aimer une personne, alors augmentez votre amour pour Jésus. Son amour vous donnera d'aimer tout le monde. Ce n'est que à cause de la lumière de Dieu dans votre cœur que vous pouvez aimer quelqu'un, car l'amour se trouve dans la lumière. Le Seigneur nous a donné le commandement de la lumière. Encore une fois, je vous écris un commandement nouveau, nous dit-il. Ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres ne vont et que la vraie lumière, lui déjà. Je dis les ténèbres s'en vont et que la lumière, lui déjà. Donc celui qui dit être dans la lumière et qui haït son frère, se trouve dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure donc dans la lumière, et il n'y a point en lui d'occasion de chute. C'est écrit dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, versets 8 à 10. Que Dieu vienne en aide à chacun d'entre nous, afin que nous ne fassions pas simplement trompette dans la lumière, mais que nous puissions vivre véritablement dans la lumière. Il ne suffit pas de traverser la lumière. Il faut marcher dans la lumière, ce qui veut dire nous devons demeurer constamment dans la lumière. Et là, nous ne serons pas de ceux qui tantôt aiment ou tantôt haïssent, car nous aimerons de manière inaltérable, puisque la lumière de Jésus est constante. L'Éternel donna l'ordre au souverain sacrificateur de toujours porter sur son cœur les Ourim et les Thummim avec le pectoral. Personne ne sait exactement de quoi il s'agissait, mais on sait que la traduction de ces noms est « lumière et perfection ». Dans Exode, au chapitre 28, verset 30, il est dit « Et tu mettras sur le pectoral de jugement les Ourim et les Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera devant l'Éternel. Et Aaron portera le jugement des fils d'Israël sur son cœur devant l'Éternel continuellement. En tant que souverain sacrificateur, Aaron était une préfiguration de Jésus-Christ. Il était l'intercesseur qui portait les péchés d'Israël devant Dieu. Il portait sur son cœur les noms des tribus d'Israël. Il se tenait entre Dieu et les hommes, apportant à Dieu les transgressions d'Israël. Et à Israël, il apportait le pardon de Dieu. Ce fut donc une responsabilité impressionnante et il avait besoin d'être protégé et dirigé. Dieu lui a donné deux objets sacrés et saints de protection et de direction. Ce furent donc les Ourim et les Thummim, c'est-à-dire lumière et perfection. Et par eux, Israël reçut les bons conseils. Le mot « Ourim » est le pluriel du mot hébreu « lumière ». C'est le pluriel du mot hébreu « lumière » que nous avons vu au début du premier CD. Notez la Genèse, chapitre 1, verset 3. Le mot « Ourim » est employé 13 fois et il signifie feu, lumière du feu, flamme, illumination et révélation. La version grecque des Septante traduit ce mot par illumination. Personne ne sait de quelle manière les Ourim et les Thummim ont été consultés. Il est probable que le pectoral avec les Ourim et les Thummim a disparu pendant l'exil à Babylone. Mais peut-être sont-ils cachés quelque part avec l'Arche de l'Alliance. Et cela nous paraît tragique que des objets d'une aussi grande valeur puissent être perdus. Mais Dieu n'en avait simplement plus besoin, car il allait, lui, conduire son peuple au moyen des prophètes. Le temps des juges et des sacrificateurs allait bientôt prendre fin, et une lumière beaucoup plus grande, la lumière du monde, allait venir, c'est Jésus-Christ. L'Ourim véritable qui éclairait ou qui éclairerait non seulement les sacrificateurs, non seulement les rois et les tribus d'Israël, mais tout homme qui naîtrait dans ce monde. Saül ne pouvait pas recevoir la direction du Seigneur, car son cœur était plein de ténèbres, car il haïssait son frère David. La Bible nous dit, « Et Saül interrogea l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par les songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. » 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. Car celui qui parla à Saül, lui annonçant sa mort le lendemain, était-ce vraiment Samuel, ou était-ce un démon familier? Car la divineresse d'Endor a décrit Samuel comme étant un vieillard vêtu d'un manteau. Se pourrait-il qu'un saint homme tel que Samuel ait l'apparence d'un vieillard après être entré dans la gloire et avoir revêtu son corps spirituel de lumière? Personnellement, chers amis, je crois que lorsque les enfants de lumière entrent dans la présence de Dieu, l'état de vieillesse n'existe plus jamais. Il y a là une mise en garde. N'allez jamais chercher un conseil auprès d'une voyante ou de quelqu'un ayant un démon familier. Cela pourrait vous détruire. Le prince des ténèbres ne pourra vous conduire nulle part, nulle autre part que à la détresse et à votre perte. Et c'est la situation dans laquelle se trouvent les enfants de ténèbres. Ce sont les personnes les plus mal avisées, les plus misérables, oui, les plus malheureuses et les moins épanouies sur terre. Leur bonheur n'est qu'une illusion. car ils passent leur séjour sur terre, tels des comédiens jouant une pièce de théâtre. Et lorsque le rideau tombe au bout de 20 ou de 80 années de comédie, elles vont en coulisses, elles ôtent leur costume, et c'est là que commence leur véritable existence, qui sera hélas en enfer. Pour terminer cette série, essayons également de comprendre la musique et la lumière. La lumière et la musique ont toutes les deux pour cause les pulsions ou les ondes. Dans toute l'infinie création de Dieu, il existe une caractéristique commune, celle des pulsions, sauf à la température du zéro absolu à laquelle cesse toute vibration moléculaire. Ainsi existe-t-il toute une gamme de fréquences vibratoires allant de la vitesse zéro, du zéro absolu, c'est-à-dire à moins 373 degrés 16 centigrades ou 459,69 degrés Fahrenheit, jusqu'à des fréquences de rapidité extrêmement élevées. Quelque part dans cet immense spectre se trouvent certains phénomènes que nous connaissons bien, tels que la température, la chaleur, les infrarouges, les sons audibles, la lumière et les couleurs visibles, les rayons ultraviolets, la radiographie, les ondes électromagnétiques de la radio et de la télévision, etc. Chaque pulsion possède une longueur d'onde. Plus la vibration est lente, plus la longueur d'onde est grande, et vice-versa. Au-delà de notre champ visuel et des sons perceptibles à l'oreille, se trouve la bande de fréquence de la lumière ou de l'Esprit de Dieu, dont le fonctionnement ressemble aux vibrations venant de la pensée de Dieu notre Père. Il est lui celui qui transmet à nos esprits comme à des postes récepteurs. Et nos esprits, ayant été créés à l'image de Dieu, fonctionnent eux aussi, tels des émetteurs vers Dieu et vers les autres. C'est ce qui fait la liaison dans la communication entre Dieu et nous, et même les uns avec les autres. Voyez-vous, lorsque Dieu a créé la lumière, il créa les ondes. Et lorsque il créa les ondes ou vibrations, il créa la musique. Car la lumière et la musique sont faites de vibrations, quoique à des fréquences différentes. Au psaume 89, verset 15, David dit « Bienheureux le peuple qui connaît le cri joyeux, il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. » Le mot joyeux en hébreu est renana, dont la racine signifie crier de joie, chanter la victoire. Ce mot cri veut dire acclamation, cri de guerre, son de trompette, donné comme une alerte, le jubilé. Ce que Dieu nous dit, c'est que le peuple connaissant le son joyeux de la trompette, et ce même peuple qui marchera à la lumière de sa face. Ce mot « lumière » est le même dont il est question dans la Genèse, au chapitre 1, verset 3, lorsque Dieu créa la lumière. La lumière et la musique inspirée par Dieu vont exactement de pair, car elles ont été créées ensemble. En Job, au chapitre 38, verset 7, vous pouvez lire, nous lisons que les étoiles chantaient ensemble à l'aube de la création. Chers amis, vous comprendrez aisément qu'il y a une très grande différence entre la musique classique, musique de chambre, comparée à la musique électronique avec les multiples gadgets sophistiqués, mélangés avec les synthétiseurs et le rap que Satan a élaboré avec l'aide de la drogue et de la débauche sexuelle sans limite. Dans la musique, il y a une grande force qui nous attire près de Dieu à cause de ses ondes puissantes, surtout lorsqu'elle est placée sous l'onction divine. Dieu se sert de la musique chrétienne, la voix humaine et les instruments de musique sont accompagnés de la, on peut dire, de la puissance créatrice originelle de lumière. Mais il y a une onction toute particulière sur la trompette. Et oui, c'est ce que nous dit le psaume 89, verset 15. Peut-être est-ce pour cela que Dieu se sert d'elle dans la Sainte Bible plus que d'aucun autre instrument. Dans le temple, au cours de certaines grandes fêtes, pendant les batailles d'Israël et dans les sombres heures de la tribulation, et il semblerait que à l'enlèvement de l'épouse, la trompette sera le plus important des instruments alors qu'elle fait connaître au monde un son joyeux. La raison en serait-elle que le son de la trompette touche l'ouïe de manière tellement forte, claire et pure, et que ces vibrations sont tellement pénétrantes qu'elle sera un moyen très efficace de communication. Dans ces temps de la fin, Dieu suscitera des trompettistes puissamment oints pour précéder la trompette de Dieu qui appellera les morts en Christ. Avez-vous entendu? C'est donc la trompette de Dieu qui appellera les morts en Christ à ressusciter. Et puis nous, les vivants, qui demeurerons, qui restons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre de notre Seigneur, dans l'air, en l'air. Et ainsi, nous serons toujours pour l'éternité avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Et nous marcherons, comme l'a dit David, à la lumière de sa face, et nous vivrons pour toujours dans la cité de la lumière. Et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil. Pourquoi ? Car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux et ils régneront au siècle des siècles. Notez Apocalypse, chapitre 22, verset 5. Nous pouvons dire ensemble Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est plus que jamais sujet de tomber malade, hélas, vous voyez la pollution autour de vous, dans l'air. On ne peut bientôt plus respirer. Il y a même des enfants qui ont des maladies pulmonaires, qui ont de l'asthme, ce qui n'avait jamais existé autrefois, en tout cas pas quand j'étais un jeune homme. Raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirés par son Esprit Saint pour vous permettre de les utiliser et de les adapter à votre situation personnelle. Prions. Seigneur, permets que tous ceux qui croisent mon chemin aujourd'hui puissent recevoir plein de bonheur. Accorde-moi cette prière et pour vous qui écoutez, pour l'adapter à vous. Quand je dis accorde-moi, ça veut dire que vous dites maintenant accorde-moi pour chaque heure d'aujourd'hui, par l'Esprit Saint. Exactement ce que je dois dire avec des sentiments d'amour, exactement la chose au bon moment. Aide-moi, Seigneur, à chercher à comprendre ce que veut traduire la pensée de ceux qui s'adressent à moi. Accorde-moi le don d'un diagnostic rapide et juste, afin d'apporter et transmettre l'aide que la personne a besoin. Seigneur, comme pour Job, relève ceux dont le regard est abattu. Ô Yahvé l'Éternel, Père, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur, car tu accordes ta grâce aux humbles. Seigneur, restaure ma santé, afin que je puisse te servir aujourd'hui encore. Tu me donnes le droit de réfuter et de chasser cette maladie dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. À demain matin, Dieu voulant, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas, prions les uns pour les autres. C'est plus que jamais nécessaire. Intercédons pour certains que l'Esprit-Saint vous met à cœur. Et n'oublions jamais le peuple d'Israël qui va devant des problèmes tellement graves, injustes apparemment, mais c'est la volonté de Dieu. Mais finalement, il y aura la victoire. Amen. Merci Seigneur. À bientôt. À demain matin. Au revoir.